Donc, Samuel Morin, merci d'être parmi nous à ONU Info. Vous participez en ce moment au sommet sur les zones de haute montagne de l'OMM. Donc, peut-être tout d'abord, qu'avez-vous pu observer sur les effets justement du changement climatique sur les montagnes ?
Dans le cadre du rapport du GIEC sur l'océan et la cryosphère qui est sorti au mois de septembre, dans lequel il y avait un chapitre entier dédié aux zones de montagne, on a pu documenter les effets principaux du changement climatique sur la cryosphère de montagne, c'est-à-dire la neige, les glaciers, le permafrost, le sol gelé. Et on constate une raréfaction de l'enneigement à basse altitude. On constate aussi un retrait généralisé des glaciers dans l'ensemble des montagnes du monde. Et on constate aussi un réchauffement du permafrost, donc des zones de sol gelé, qui ont des conséquences sur les risques naturels et qui ont aussi des conséquences par l'évolution des glaciers et de la neige sur les ressources en eau. Et donc ça fait partie des choses sur lesquelles l'ensemble des données convergent vers cette évolution marquée des conditions physiques des zones de montagne, qui a des conséquences pour les écosystèmes, la faune et la flore, et qui, in fine, a aussi des conséquences pour les activités humaines, que ce soit dans le secteur du tourisme, que ce soit dans le secteur, de manière générale, des modes de vie des gens qui vivent en montagne, sur l'agriculture également. Tous ces secteurs sont affectés à divers degrés dans les zones de montagne sous l'effet du changement climatique.
Et vous, en étant chercheur, vous avez pu voir de première main, justement, les répercussions de ces changements sur les populations. Vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples ?
Dans le secteur du tourisme, par exemple, on constate une raréfaction de l'enneigement à basse altitude et ça a des conséquences pour les activités des stations de sport d'hiver. En France, en Suisse, en Italie, mais aussi dans des zones de montagne en Amérique du Nord, au Japon, on constate dans certains cas la fermeture de certaines stations parce que les conditions sont devenues trop défavorables pour l'activité. Et puis, de manière plus générale, on observe une adaptation de certaines stations avec la mise en place de l'enneigement artificiel, de la neige de culture, du damage, de différentes méthodes pour essayer de parer aux effets les plus négatifs liés à la raréfaction de l'enneigement. Il y a aussi des conséquences très visibles sur l'alpinisme, sur la façon dont les gens pratiquent la montagne et la haute montagne, du fait du retrait des glaciers, du fait de la déstabilisation des parois rocheuses. Ça, c'est des choses qui touchent finalement la façon dont les populations humaines, qu'elles habitent ou pas dans les montagnes, pratiquent et ont une relation avec cet environnement particulier.
Et ça affecte aussi la sécurité alimentaire, n'est-ce pas ?
Alors, dans certaines régions, ça a des conséquences sur la sécurité alimentaire. Ceci dit, la sécurité alimentaire, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que l'effet du climat. Ça, évidemment, c'est touché par l'évolution des ressources en eau, mais il y a tout le fonctionnement socio-économique sur les imports, les exports, la façon dont la chaîne alimentaire et les systèmes alimentaires sont organisés. Donc effectivement, le changement climatique, les perturbations sur la disponibilité de l'eau, ça a des conséquences sur la production agricole. Mais effectivement, il y a des effets beaucoup plus multiples, finalement, qui touchent la sécurité alimentaire. C'est difficile de mesurer encore à l'heure actuelle quelle est la part de la réduction sécurité alimentaire qui est liée intrinsèquement à l'évolution, en particulier de la neige et des glaciers. On sait qu'il y a des effets du changement climatique, notamment sur l'élévation des températures qui posent des difficultés sur la croissance de certains types de produits agricoles. Voilà, mais c'est quelque chose de beaucoup plus vaste qui ne peut pas s'envisager uniquement sous l'angle climatique.
Donc, durant ce sommet, justement, des discussions vont avoir lieu pour discuter de solutions pour limiter les effets du changement climatique. Donc, quelles solutions voyez-vous qu'il faut entreprendre ?
Alors, le sommet, il touche généralement l'ensemble des services météorologiques, climatiques, hydrologiques qui sont assurés pour les régions de montagne. Donc évidemment, le changement climatique, c'est un élément de contexte extrêmement fort, mais ce n'est pas le seul. Hein. Il y a toujours eu des catastrophes, il y a toujours eu des événements relativement perturbants du point de vue météorologique qui se passent dans les zones de montagne. Donc quelque part, avec ou sans changement climatique, les zones de montagne ont besoin, comme le reste du monde, de disposer d'informations précises pour pouvoir organiser leurs activités, pour pouvoir parer aux risques naturels les plus dramatiques. Et effectivement, le changement climatique amplifie certains de ces changements, en modifie le caractère, et ça fait partie des choses effectivement qui sont dans notre ligne de mire. Et ce qu'on mesure effectivement, c'est que les zones de montagne sont des zones qui, dans certaines régions du monde, ont bénéficié de moins d'observations. On pense à l'Himalaya, à l'Amérique du Sud par exemple, moins d'observations que d'autres régions de montagne du monde, voire même que d'autres régions du monde. Et on mesure le besoin de mieux connaître ce qui se passe dans ces régions de montagne pour construire des services, notamment d'anticipation, de prévision, d'alerte précoce des dangers, à la fois des risques naturels, mais aussi des sécheresses ou de la façon dont on organise aussi l'agriculture ou le tourisme, par exemple, en utilisant des moyens de prévision améliorés pour lesquels on fasse intervenir aussi les connaissances locales de la part des populations qui vivent dans les montagnes et qui disposent de connaissances dont on peut tirer parti pour produire et construire des systèmes d'alerte ou des systèmes d'information. Comment on peut agréger ces informations-là, comment on peut développer et résoudre les éléments manquants dans nos connaissances pour produire des informations et des outils et des services qui permettent aux zones de montagne et aux populations des zones de montagne de mieux s'adapter finalement à ces effets de court terme comme de long terme et de pouvoir finalement être plus résilient dans la façon dont elles vivent dans les zones de montagne.
Et dernière question, Monsieur Samuel Morin. Donc, qu'est-ce que ce sommet va apporter et qu'en attendez-vous ?
Alors, ce sommet est le premier sommet consacré à la montagne, organisé par l'Organisation météorologique mondiale. Donc, quelque part, c'est un coup de projecteur relativement nouveau qui est mis sur les zones de montagne. En général, quand on traite une région du monde, les montagnes font partie du paysage, mais c'est rarement le point prioritaire d'attention. Dans la plupart des pays du monde, les montagnes sont une partie du territoire. Donc, c'est pas forcément toujours mis au centre des débats. Là, c'est la première fois qu'il y a un sommet qui traite directement des zones de montagne avec un grand nombre de parties prenantes, que ce soit l'Organisation mondiale de l'agriculture, que ce soit l'Organisation météorologique mondiale, que ce soit un certain nombre d'organisations et d'ONG et de représentants des services météorologiques des pays du monde, également un certain nombre d'organismes de financement tels que la Banque mondiale, qui viennent aussi voir dans le détail qu'est-ce qui existe déjà pour les zones de montagne, qu'est-ce qu'on peut faire pour identifier la façon dont on peut mettre en priorité les développements les plus nécessaires, et on mesure bien dans quelle mesure les développements les plus nécessaires ne sont pas forcément d'avoir plus de stations météo, pas forcément d'avoir plus d'infrastructures, mais surtout d'améliorer la façon dont les décisions sont prises, d'améliorer la façon dont les populations sont intégrées dans le processus de construction des outils de prévision, par exemple, pour que les services qui sont mis en place soient les plus performants possibles du point de vue scientifique, mais aussi les plus utiles possibles. Et ça, on peut s'en assurer que si on intègre les utilisateurs dès le début de la construction des services et comment ces services aussi favoriser finalement les échanges entre les pays. Il y a une notion aussi de gouvernance régionale des différents pays. Quand on parle de gestion de l'eau, quand on parle de gestion des risques naturels, finalement, les zones de montagne ne voient pas les frontières politiques ou géographiques de nos États. Hein. D'ailleurs, la plupart des montagnes sont plutôt à la frontière. Donc, il y a tout un enjeu de coopération transfrontalière. Et des sommets comme le sommet sur la haute montagne qui est ces jours-ci à Genève, c'est aussi une occasion d'échanger et d'identifier la façon dont on pourra progresser à l'avenir sur ces sujets-là.
Et vous, justement, en étant chercheur, donc c'est important d'être réunis tous ensemble à ce sommet?
Je fais partie des chercheurs qui travaillent dans un environnement très proche du monde opérationnel. Mon employeur étant Météo France, on a des responsabilités opérationnelles pour la sécurité des biens et des personnes dans les zones de montagne en particulier. Et ça fait effectivement partie de notre responsabilité de chercheur que d'être en contact de nos homologues, à la fois chercheurs et institutionnels et opérationnels, pour améliorer nos outils, pour améliorer nos façons de travailler et pour arriver à s'inspirer mutuellement et à tirer parti de nos différences et de nos expériences pour améliorer les produits que l'on développe, améliorer les services que l'on développe ou qu'on contribue à développer. La recherche en météo, la recherche en climat, elle est évidemment très pointue, très physique sur certains sujets, mais une partie du travail, ça consiste aussi à faciliter le lien vers les services opérationnels pour que notre recherche ait des déclinaisons pratiques et puisse répondre à des enjeux de court terme ou de long terme.